On va dire un mot de prière ensemble, on va commencer. Je m'appelle Yannick Étier, on est dans le cours Formation disciples, pour ceux qui l'écoutent en audio, et puis on couvre la leçon 2. Éternel, merci pour tes bontés. Merci Seigneur pour ce temps qu'on peut prendre ensemble. Seigneur, alors que tu nous as permis de prendre des vacances à l'extérieur, de visiter même une autre assemblée, c'était édifiant Seigneur, c'est encourageant pour moi de voir ton œuvre ailleurs dans le monde et comment tu prends soin, comment tu veux Seigneur, établir des églises qui enseignent ta parole dans une poursuite vraiment de la vérité, Seigneur, qui cherche à faire des disciples. Alors, je te prie, Seigneur, de nous bénir ensemble ce matin, de nous faire grandir, de nous aider à réviser notre compréhension, à examiner nos cœurs dans notre disposition aussi, à notre disponibilité pour s'engager, Seigneur, dans des projets aussi grands que ceux de faire des disciples qui apprennent à te ressembler de plus en plus. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, salut. Ce matin, on va regarder un petit peu plus comment Jésus faisait de la formation de disciples. Pas autant dans le comment que dans qui. C'est quoi les conditions de départ. Une des choses qui, selon moi, est pas mal claire lorsqu'on étudie le sujet de la formation disciple, c'est qu'on n'a pas vraiment de how-to, on n'a pas de cahier très, très explicite sur la manière de faire des disciples. Et puis, le contenu n'est pas très défini, parce que finalement, si on veut dire le contenu, ça va être la Bible. Hein? Fait que ça, c'est votre manuel de formation disciple, vous prenez la Bible. On voit plus des principes. Il y a des principes qui se dégagent lorsque Jésus est en train de faire des disciples. Il y a des principes qui se dégagent lorsque Paul est en train de faire des disciples. Certains de ces principes-là se répètent, donc ça semble vraiment être quelque chose qui est là. Alors, un des éléments qu'on développe à travers le cours, c'est qu'on cherche moins à vous donner du contenu, du matériel, de la matière, que de vous aider à apprendre des principes qui devraient vous diriger dans la formation de disciples. Donc, ça peut être un petit peu frustrant parce que même si dans cette édition-là du cours, on va donner un petit peu plus de contenu, vous n'allez pas partir d'ici avec un manuel qui va vous dire « bon, ben voici les leçons 1, 2, 3 ». Comme je l'ai mentionné, je pense, dans le premier cours, l'approche ou la compréhension souvent qui est dans l'Église, c'est on passe à travers un cours comme le maître et son disciple, puis on a fait comme la formation de disciple. Maintenant, personne n'oserait dire « c'est fait, la formation de disciple est faite avec le maître et son disciple ». Mais souvent, c'est ça qu'on voyait dans les églises. Probablement que plusieurs d'entre vous, c'est un peu l'expérience que vous avez eue. Puis après ça, tu es un petit peu, tu es comme livré à la vie de l'église. À travers les relations, tu vas grandir, ce qui est vrai. Une grande partie de notre croissance vient juste en s'impliquant, en développant des relations, en s'investissant dans un petit groupe, une réunion de prière, peu importe. Mais souvent, l'image qui est projetée, c'est on va suivre un cours, on va passer à travers le cours, on va voir les bases, formation de disciples. Je le vois pas vraiment dans les Écritures. Et puis, en réalité, ça, dans mon expérience à moi, ça laisse très insatisfait. Alors moi, c'est ça. Ça a été ma première expérience. J'ai fait le maître et son disciple. Puis après le maître et son disciple, ben, il n'y avait pas comme de suite à ça. Ça s'arrêtait là. Donc après, c'est un peu, ben, va trouver tes ressources pour grandir. Donc on va voir que l'approche de Jésus est un peu différente. Il travaillait beaucoup, beaucoup avec des principes. Quelques-uns des éléments qui ressortent lorsqu'on regarde à la formation de disciples chez Jésus, il y a dès le départ toute la notion de coût et d'engagement. Pour Jésus, il fait une distinction majeure entre la foule et les disciples en qui il s'investit. Puis si vous pensez, là, quand vous lisez les évangiles, tout ça, il y avait la foule, il y avait la foule même des disciples, mais encore là, il y avait ceux qui étaient les plus près de lui dans lesquels il s'investissait. Fait qu'il y a cette idée-là qui est importante, je crois, pour s'investir dans la vie d'autres personnes, qu'il doit y avoir certains tests. D'accord? Ces tests-là sont implicites, ils vont venir avec la vie chrétienne. Il y a des gens qui font profession de foi, commencent à marcher avec le Seigneur, un an, deux ans, trois ans après, des épreuves viennent et abandonnent la foi. Parabole des quatre terres, d'accord? Maintenant, ça pourrait être comme laissé à la providence divine. Tu fais profession de foi, on saura dans quelques années si tu es chrétien, dans un sens. On te croit, on reçoit ta profession de foi, c'est un acte de foi, ça va se confirmer avec le temps. Ça pourrait s'arrêter à ça, mais avec Jésus, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste la providence divine ou les épreuves de la vie qui vont nous informer à savoir si tu es chrétien. Jésus tout simplement va vers la personne puis il donne des tests. Il lui demande d'abandonner pour pouvoir le suivre, de renoncer à lui-même. Et donc ça, c'est un des principes super importants. Un autre principe super important, c'est cette idée que la formation de disciples, ça se vit dans le contexte d'une relation. C'est pour ça que, admettons, si vous me disiez, là, Yannick, est-ce que tu es en train de faire de la formation de disciples actuellement dans le cours? Ben, oui, dans un sens. T'sais, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Tu es en train d'enseigner, donc on est en train de faire de la formation de disciples. Mais en même temps, quand vous pensez à Jésus, on pense difficilement juste à un contexte où ça se résume à ça, des cours. C'est généralement un cours qui aurait terminé avec, c'est peut-être pas du café, là, je ne sais pas ce qu'ils prenaient, mais un petit quelque chose autour du feu, puis ils sont en train de jaser, puis ils reviennent sur le cours, puis ils reviennent sur les questions, puis ils reviennent sur des discussions, des sujets qui ont été abordés dans le cours, puis oups, il y a telle personne qui était là aujourd'hui dans le cours, puis elle a posé telle question. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jésus? Et donc, lorsqu'on pense à Jésus dans sa formation de disciple, c'est beaucoup plus continuel, c'est beaucoup plus à travers une relation. Fait qu'une des premières affaires que Jésus va dire, c'est « Viens, suis-moi ». Mais « suis-moi », ça veut dire que tu es avec moi toute la journée. Puis il y a la foule qui est là, puis on a besoin de faire un lunch. Fait qu'il faut faire un lunch pour 3000 personnes. On va faire ça ensemble, on va sortir les couteaux puis les poissons. Fait qu'ils vivaient ensemble, d'accord? Donc, premièrement, il y a un coût pour devenir un disciple, et ça devrait se manifester lorsque vous vous investissez pour faire des disciples. Il doit y avoir cette notion-là, est-ce que la personne est prête à payer un prix pour s'engager à suivre Jésus et être formée. Deuxièmement, c'est à travers des relations. Alors là, dans un contexte idéal, dans une société comme la nôtre, il faut prendre des décisions, il faut être très intentionnel, parce que dans une situation idéale, on devrait vivre plus ensemble pour faire de la formation de disciples. C'est ça qu'on voit avec Jésus, c'est ça qu'on voit avec Paul. Les églises vivaient plus ensemble, d'accord? Alors, même au Québec, là, prenez même l'Église catholique, puis reculez de 60 ans, de 80 ans, les gens allaient à la messe, écoute, souvent à tous les jours, d'accord? Donc, tu te vois, tu te côtoies, tu vis dans un village. S'il y a une vie qui est tout croche, tu le sais, ça faisait même l'objet des potins du village, d'accord? Mais dans notre société à nous, où on court, puis on est tous séparés, puis on a tous nos activités, mais dans le meilleur des cas, on va se voir deux ou trois fois dans une semaine, d'accord? Fait que dans un sens, c'est vrai que le meilleur contexte pour faire de la formation de disciples, particulièrement à notre époque, c'est avec ma famille puis mes enfants. Parce que je les vois le matin, je les vois le soir, je sais qu'est-ce qui se passe, j'ai une idée de ce qui s'est passé dans la journée. Fait qu'on pourrait être tenté de dire, bon, ben dans le fond, la formation de disciples, ça se fait avec la famille. Oui, c'est vrai. C'est implicite dans le Nouveau Testament. C'est très peu explicite dans le Nouveau Testament. Ce qui est explicite, c'est avec la famille de Dieu. Sauf que la famille de Dieu se voyait pas mal plus. D'accord? Se côtoyait beaucoup plus. À cause du rythme de vie, parce que les gens vivaient près de leur secteur, parce que les chrétiens se voyaient souvent, parce qu'il y avait cette entraide-là qui était plus présente. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que dans notre contexte à nous, l'idéal pour faire de la formation de disciples, c'est lorsqu'on est ensemble dans un même petit groupe, lorsqu'on est en train de servir ensemble dans le cadre d'un ministère. Mais encore là, pas un ministère où, admettons, on est dans la louange, puis tu sers sur telle équipe, l'autre sert sur telle équipe, puis finalement, on est ensemble pour de vrai, juste, tu sais. Mais si on est dans les mêmes équipes, puis on se voit régulièrement, puis on travaille ensemble, OK, là, ça va être un contexte pour le faire. Fait que dans un sens, évidemment, moi, admettons, je suis ici, puis les gens qui sont sur l'équipe, le staff, même les bénévoles qui sont tout proches, on est régulièrement ensemble, dans des projets ensemble, tout ça. Fait que dans notre contexte, l'idéal, c'est si tu es dans un petit groupe, tu es dans un ministère, tu es en train de servir ensemble. Et puis, si ce petit groupe-là est un petit groupe en mission, on s'en va encore une étape plus loin, parce que ça veut dire que les gens qui sont avec moi, en qui je suis en train de m'investir, vont pouvoir me voir aussi dans un contexte où j'annonce l'Évangile, où une famille rentre en contact avec ma famille. Fait que c'est pour ça qu'on encourage les gens le plus possible à envisager, premièrement, de se joindre à un groupe, mais à un groupe en mission. D'accord? Parce que ça va être plus simple de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment idée de quoi je parle lorsque je parle d'un groupe en mission? Vous auriez besoin juste que je clarifie ça. Ça va? OK. Donc, ça peut se faire dans le contexte d'un ministère. Ça peut se faire tout simplement. Certains d'entre vous, vous allez décider après le cours de Invitez deux personnes, trois personnes à s'asseoir avec vous, à prendre un café une fois par deux semaines, puis vous allez vous investir dans leur vie. Ça se fait, la formation de disciples comme ça, d'accord? L'idéal, ça va être, lorsque vous allez choisir les personnes que vous allez approcher, bien, ça va être de prendre des gens qui sont plus près que ça de vous, que vous allez déjà voir dans d'autres contextes, dans d'autres ministères, ils sont impliqués, donc vous avez accès à leur vie, ou vous êtes en train de commencer quelque chose avec eux, d'accord? Parce qu'on va aller pas mal plus loin, on va aller vers de la formation de disciples qui devient vraiment relationnelle. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça va? Est-ce qu'il y en a qui se disent, « Ouais, mais c'est pas réaliste, je peux pas faire ça. Je pourrais pas vivre ça. » Parce que c'est tout un défi, là. À notre époque, là, avec notre style de vie, notre rythme de vie, c'est un gros défi. D'accord? Oui, Suzy. OK. On va répondre à cette question-là dans les prochaines semaines tranquillement, mais il y a deux choses. Pour que toi, tu considères que tu es en train de faire de la formation de disciples avec ces gens-là, il faut que l'engagement soit mutuel. Alors ça, c'est un minimum. Si, admettons, tu me dis, Yannick, je me rencontre avec Julie, avec Chantal, puis on vient d'inviter Marie-Claude à joindre à nous. Marie-Claude, ben, elle cherche Dieu, je pense qu'elle a compris l'Évangile, mais c'est pas tout à fait clair encore. Ben, dans mon langage à moi, avec le cours, je vais te dire, t'es pas encore en train de faire de la formation de disciple avec elle. Parce qu'elle peut pas vraiment avoir pris cet engagement-là encore. On est en cheminement. Puis si toi, dans ta tête, toi, tu prends un engagement envers cette personne-là, envers Marie-Claude, admettons, puis tu dis, OK, moi, je m'engage pour 2 ans. Elle, tu sais même pas à quoi s'est engagée. À un moment donné, ça va créer des tensions. C'est un petit peu comme si, tu sais, essayez d'imaginer que les disciples qui ont tout abandonné disaient à Jésus, mais là, c'est parce que tu nous en demandes un peu trop. Ils disaient, je pense, tu n'as même pas un petit caractère dans le contrat, c'était super clair. Fait que c'est ça. Fait que ça crée des tensions si ça, c'est pas clair. En même temps, les gens qui sont avec moi, mettons, dans ma triade ou dans mon quad de formation de disciples, est-ce qu'il faut que ce soit tous des gens qui, par exemple, sont tous déjà baptisés, sont tous impliqués dans mon petit groupe en mission. Mais pas nécessairement, parce que même dans le contexte d'un groupe en mission, il y a des gens que je vais croiser, admettons, dans notre groupe à nous, à la bouffe pour tous, on va commencer à jaser. Oups, il y a une décision, OK, c'est clair qu'ils sont au Seigneur, mais peut-être qu'ils ne viennent plus à bouffe pour tous. Mais le contexte s'est fait là, le contact s'est fait là. Fait que, est-ce qu'on doit tous être all-in dans toutes nos activités ensemble? Pas nécessairement. Mais je vais tirer dans une direction. Je vais leur dire, plus tu vas m'en donner, plus tu vas apprendre. Plus tu vas être présent, plus tu vas apprendre. Plus on va vivre ensemble, plus tu vas grandir. Puis ça va être là. Au départ, pour dire qu'on commence à faire de la formation de disciples ensemble, il faut qu'il y ait un engagement. Ça, il faut que ce soit là. Puis on va le voir, l'engagement est assez demandant. Dans un contexte intentionnel où on fait la formation de disciples, il y a plein de choses qui sont soit explicites ou implicites dans l'approche de Jésus que nous, on formalise, mais ils sont là avec Jésus. Par exemple, imaginez un instant que Jésus pose une question à Pierre, puis pose une question de transparence. Pierre, tantôt, il y a une femme qui était là, il y a une femme aux allures un peu délurées, puis elle avait l'air de commencer à te croiser, mon Pierre, qu'est-ce qui se passait dans ton cœur? Imaginez Pierre qui dit, « Je suis désolé, Jésus, ça c'est ma vie privée, c'est ça, non, je ne suis pas prêt à m'ouvrir sur ça avec toi. » Fait que, nous autres, dans notre langage à nous, on va parler de redevabilité, de transparence, tu sais. Fait que vous ne trouverez pas nécessairement le mot transparence ou redevabilité avec Jésus, mais c'est là. Donc, il y a des choses, il y a plusieurs choses qui sont soit implicites ou explicites dans l'approche de Paul, dans l'approche de Jésus, que nous, on formalise. C'est pas qu'on les invente, c'est pas qu'on crée une nouvelle patente, ils sont là chez Jésus, d'accord? Mais nous, on va le formaliser. Fait que si je m'assois avec deux boys pour commencer à faire de la formation de disciples, on va le dire explicitement. Je ne vais pas attendre qu'on ait lu les 4 évangiles ensemble pour qu'ils sachent que faire de la formation de disciples, ça demande de la transparence. Je vais le dire, tu t'engages à être transparent, à être vrai. Si on arrive dans une zone où tu dis, je ne suis pas prêt à parler, tu vas simplement dire, pour l'instant, je ne suis pas prêt à parler, continue à prier pour là-dessus, on va y revenir quand je vais être prêt. Pas de problème. On est vrai, on est transparent. D'accord? Ça répond un peu, Suzy? OK. L'autre élément qui est super important, puis c'est important pour, dans notre expérience à nous, c'est que Jésus avait assez de vision pour penser petit. Jésus avait une vision absolument énorme. D'accord? Pensez à la grande commission. Aller faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il y avait une vision non seulement planétaire, mais il y avait une vision aussi qui allait, disons, millénaire, au moins jusqu'à son retour. Parce que même si de son vivant, les disciples avaient atteint toute la terre, ils n'ont pas atteint les générations qui ne sont pas nées encore. Okay? Donc, la vision de Jésus est énorme. C'est toute l'humanité qu'il veut atteindre avec l'Évangile. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence extrêmement petit. Fait qu'il y avait des foules avec lui, puis régulièrement, Jésus fait une forme de ségrégation. Il dit à toi, puis toi, venez-vous-en, on s'en va, puis la foule reste là. Régulièrement. Il y a 3 ans. Le monsieur, il y a 3 ans pour avoir un impact universel. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 3 années-là? Régulièrement, il dit, OK, la foule, c'est super cool, vous en voudriez d'autres encore, hein? Ça s'arrête ici pour tout de suite. J'ai mon petit groupe select, je m'en vais avec eux. Là, dans mon petit groupe select, j'en ai un autre encore plus petit que ça. D'accord? Hop, on tombe à 2, 3. Ceux qui s'en vont sur la montagne, pensez-y une seconde. La montagne de la Transfiguration. Pourquoi il n'y a pas eu 6000 personnes à cet événement-là? T'sais, pourquoi Jésus est apparu peut-être environ à 500 personnes seulement? Pourquoi il ne s'est pas pointé partout à Jérusalem? C'est quoi la joke? Fait que, il faut que je fasse confiance à la providence de Dieu. Il faut que je fasse confiance que c'est le projet de Dieu. Il faut que j'ai confiance que c'est l'Esprit Saint qui est le coach principal pour m'investir, moi, dans la vie de quelques individus à la fois. Puis dans ces quelques individus-là, après 1 an, 2 ans, oups, on va prendre un petit peu, chacun, on va partir chacun de notre côté, ils vont commencer à aller se reproduire en d'autres personnes. Puis moi, je vais commencer avec quelqu'un d'autre. Puis ça se peut que quand je vais arriver à ma 3e, 4e, triade ou quoi de formation de disciples, je regarde en arrière et puis je dis, ailleurs, on devrait être rendu comme 3 qui se sont reproduits, on devrait être rendu comme 25, mais j'en ai à moitié qui ont abandonné, puis un tiers qui ont carrément abandonné la foi, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'était pareil pour Jésus. Je dis, c'est sérieux, là? C'était pareil pour Jésus, d'accord? Fait que Jésus avait une vision, sa vision était super énorme, était assez grande pour qu'il commence petit à une échelle où les gens allaient rentrer dans sa vie. Où il allait vraiment le voir dans sa vie, puis il allait se reproduire en eux. Puis c'est quand même ça qui se passe après, lorsqu'on arrive dans la suite de l'histoire. Ces quelques individus-là en qui Jésus s'est investi énormément vont vraiment bouleverser tout l'Empire romain. D'accord? C'est important de le garder à l'esprit, ça, parce que ça peut être extrêmement frustrant et contrariant faire de la formation de disciples. Parce qu'il y a des déceptions. Je partageais avec un ami cette semaine. Il y a comme 2-3 mois, à un moment donné, ça m'a frappé, là. Il y a des gens à qui je m'étais investi énormément. Puis qui m'ont déçu, là, terrible. Puis moi, je suis comme, tu sais, je suis très tasque, hein. Fait que souvent, ces choses-là, je vais les vivre, mais je m'en rends pas compte, je les sens pas. C'est juste comme, je fais mon affaire, j'ai mes choses à faire, je veux aider les gens à grandir. Let's go, faut travailler fort, tu sais. Puis là, je pensais à ces gens-là, puis j'étais en joie à le voir. Je ne le réalisais pas. À un moment donné, j'ai juste comme dit, « Hey, mais je suis vraiment fâché après eux. » Il y a une personne, je la croisais, là, j'avais juste pas le goût d'y parler. Puis là, à un moment donné, j'ai prié, puis j'ai dit, « Seigneur, faut que tu m'aides à leur pardonner. Je suis déçu après avoir investi autant dans leur vie qu'ils soient là. Là. » C'est arrivé du champ gauche, j'ai pas vu ça venir du tout. À quel point j'allais être déçu, j'ai pas vu venir, mais pas du tout. Là. J'étais amer de ça. Je vous dis, c'est honnêtement, c'est rare que ça m'arrive. Je suis un rationnel, là. Fait que c'est pas le genre d'affaires avec lesquelles je me tracasse beaucoup, mais je veux dire, je suis un humain pareil comme tout le monde. Ça peut être très, très, très dur de faire la formation de disciples. Parce qu'il y a des gens qui vont vous décevoir, vous allez vous investir. Et là, la tentation va être de perdre la foi. De perdre la foi en Dieu. Parce que si vous arrêtez de faire la formation de disciples parce que les êtres humains vous déçoivent, là, venez pas me chanter la chanson que c'est parce que vous n'avez pas la foi dans l'être humain. Là. C'est pas ça pantoute, c'est que vous n'avez pas la foi en Dieu. Autrement, vous croyez au salut par les œuvres. Vous pensez que vous allez persévérer puisque vous avez la foi en vous-même, puis les gens vont persévérer à cause d'eux, c'est ça? On pense que les gens sont sauvés parce qu'ils persévèrent par eux-mêmes? Pantoute. On croit que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui garde les saints jusqu'à la fin. Mais c'est Dieu qui va garder vos disciples jusqu'à la fin. Puis il y en a qui vont se péter le bout du nez. Puis, comprenez? Mais c'est très tentant de perdre la foi en Dieu dans la formation de disciples, que Dieu peut changer, former des gens. Je parlais de ça dernièrement avec quelqu'un. Puis j'ai dit, toi, tu as la foi quand tu penses à une église en général. Mais si je te donne 10 leaders qui sont censés devenir des pasteurs qui vont implanter des églises, tu n'arrives pas à avoir la foi. Puis ton problème, c'est un problème de foi en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu va susciter des leaders. Fait que c'est à une autre échelle, mais la personne, c'est vrai, elle le voyait. Caro. Oui. Oui. Avec tes pères, dans le fond. Je suis dans un groupe où tout le monde est censé à peu près être à la même maturité que moi, ou en théorie, puis là, je prends l'initiative. Non, vous allez le voir plus loin. Comment je vous dirais ça? Moi, j'ai eu à délai avec ça comme pasteur. Là, je veux dire, encore aujourd'hui, j'ai des Monsieur Prévost, j'ai des régents qui sont plus vieux que moi. Là, j'ai commencé, j'avais 24 ans. Là, fait que les trois quarts de l'Église étaient plus vieilles que moi. J'ai-tu le droit d'initier quelque chose avec ces gens-là, oui ou non? Fait que c'est juste que je prends l'initiative. Puis dans le fond, ce que j'ai de plus, c'est d'être celui qui initie. C'est tout. Puis je ne le fais pas avec plus de prétention, ça. Si Dieu m'appelle à le faire puis encourager des gens, mais il y a quelque chose qui va sortir aussi à un moment donné. Il y a une intentionnalité. Mais dans le fond, on va le voir un peu plus loin, là. Pour moi, la formation de disciples, c'est aller vers des gens puis grandir avec eux. C'est pas les aider à grandir, c'est grandir avec eux. Moi-même, je suis en train de grandir. La différence entre eux et moi, en principe, tu vas peut-être avoir une couple de mille d'avance, mais c'est surtout que je suis intentionnel. Je prends l'initiative, je suis intentionnel, j'invite à ce qu'on fasse les choses. Puis si je prends cette approche-là, ce qui serait différent, mettons, à la maison avec mes enfants. Mais en même temps, avec mes enfants, ben, j'ai hâte d'avoir 18 ans, Bastien va avoir 16 ans. De plus en plus, c'est je veux avoir leur écho parce que je sais que ce qu'ils voient qui ne marche pas chez moi, probablement qu'ils voient mieux que moi-même. T'sais. Fait que ça, on devient de plus en plus comme des pères quand même, dans un sens. Puis l'avantage de ça, lorsqu'on le fait dans le cadre de triade ou de quad, c'est qu'avant longtemps, justement, on casse le réflexe de dire « Caro, toi puis moi, on va prendre du temps ensemble puis je vais t'enseigner. » Ben là, de temps en temps, tu vas dire « Je peux-tu te dire quelque chose que je pense? » Mais si on est à quatre, là, la game est complètement différente. Tu comprends? Parce que je vais dire « Karine, qu'est-ce que t'en penses? Caro, qu'est-ce que tu penses de ça? » C'est pas moi là qui est en train de le faire, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça se peut que Karine a dit « Ouais, mais Yannick, il y a telle affaire, tu sais, des fois, je trouve que t'as comme de l'air irritable, tu sais, tout ça. » Ah, oh, Caro a embarqué « Ouais, c'est vrai, ah, OK. » Oh, là, c'est moi, finalement, qui est en train de me faire coacher. Comprenez? Fait que je te dirais, c'est l'initiative puis l'intention, d'être intentionnel. Puis après ça, étant donné que c'est pas top-down, prétend pas avoir toutes les réponses, ça se fait bien. Ça crée des tensions. Là, il y a des groupes où c'est plus difficile. À un moment donné, des personnes qui m'arrivaient et disaient « Mais j'ai l'impression que j'arrive pas à rien diriger non plus. » Mais ça, on le détermine au début. C'est moi qui prends l'initiative des rencontres, des choses où on va s'en aller. Est-ce que ça devient un groupe de redevabilité plus que de la formation de disciples? Ben, si tu es sur un nowhere, oui. Dans le sens, je vais donner un exemple. Je fais deux retraites par année avec François puis Stéphane. François Turcotte puis Stéphane Gagné. Ben là, on serait bien mal pris de dire qui est en train de faire de la formation de disciples là-dedans avec les autres. Fait qu'on est dans un sens, on est sur un nowhere. Notre engagement, c'est de faire ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais si en même temps, on s'engage pour un an ensemble, non, c'est pas juste la redevabilité. On veut lire un livre, on veut faire des choses ensemble, on veut adresser des choses. Je comprends là, que ça peut être différent là, si on se dit « Ouais, mais on est tous des pères, P-A-I-R-S, t'sais, fait que ça va être plus comme du partage. » Oui, mais intentionnel sur des sujets précis. T'sais. Fait que s'il faut vraiment qu'on se voit tous comme des égaux, il faut que moi je puisse te dire « Annie, là-dessus, je pense que tu as des choses à apprendre de moi. » Toi, tu vas me dire « Yannick, je pense que là-dessus, toi, tu as des choses à apprendre de moi. » Puis il faut qu'on soit capable de faire ça comme ça. Autrement, ben là, je serais d'accord. C'est même pas, je pourrais pas appeler ça de la formation de disciples. C'est plus on partage ensemble. Mais voyez-vous, même dans le cadre, admettons, avec François et Stéphane, parce qu'on est trois, ben régulièrement, les deux autres gars sont absolument d'accord que l'autre a quelque chose à apprendre. Fait que, même si on voulait dire c'est juste du partage, à un moment donné, tu as deux profs, c'est ton cas. Puis ça arrive régulièrement comme ça. Mais dans notre cas à nous, la différence majeure que je fais, c'est que on se voit deux fois par année jusqu'à ce que mort s'en suive. Là. Fait que c'est quand même différent comme contexte d'un. On prend un moment, on va cheminer ensemble, on va voir un petit peu de matériel ensemble, puis après ça, tu vas aller te reproduire, tu vas aller le faire ailleurs. C'est un contexte différent. As-tu répondu à ta question? C'est moi qui initie. Ça, je le mets clair. C'est moi qui initie. Ça se fait, mais il faut le mettre plus clair, c'est tout. Par exemple, Stéphane, je l'ai vécu avec lui, Stéphane Gagné, je l'ai vécu avec lui. On a chacun nos forces. Fait qu'il y a un domaine où lui voyait une force chez moi depuis des années. Puis plusieurs années avant, il avait plutôt tendance à me piner avec ça. Il voyait ça plus comme un défaut qu'une force. Puis là, avec le temps, il s'est dit, aïe, aïe, dans le fond, OK. Peut-être que je ne l'exprimerai pas de la même manière que Yannick si moi je le vis, on n'a pas la même personnalité, mais c'est quelque chose qui est fort chez lui. Fait qu'il dit, Yannick, je veux que tu m'enseignes ça. C'est beau. Fait que là, j'ai dit, on va se rencontrer tant de fois, tu vas travailler ça, je vais te donner des devoirs, puis fait que là, c'est concret comme ça. Mais on a clarifié, tu sais. On n'est pas sur notre nowhere où on se voit deux fois par année, on travaille quelque chose ensemble. C'est ça. Mais je vous dirais aussi, ça va, c'est ça, moi je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça. Parce que je le fais toujours aussi avec un titre, là, je ne peux pas détacher ça complètement. Là. Mais vous allez le vivre aussi dans le sens, à partir du moment où tu vas avoir coaché deux, trois fois dans ta vie, même si tu le faisais avec tes pères, à un moment donné, tu sais où tu t'en vas. Fait que les gens autour de toi, les gens qui sont là, eux autres, ils sont plus ou moins expérimentés. Fait qu'à un moment donné, ils sentent ça, puis ils te laissent un peu diriger tout ça. Je pense que c'est plutôt lorsque vous le faites pour la première fois. Peut-être c'est là que je vous encouragerais pas à faire. La première fois que tu coaches, va pas chercher tes deux meilleurs amis puis leur dire « Hey les amis, les copines, je vais commencer à vous coacher. » Pas sûr là, que c'est aussi simple que ça. T'sais. Fait que ce que tu as vécu des fois, je pense. Yes, Suzy. Ouais. Vous allez le voir au fur et à mesure. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un maître, il y a quelqu'un qui enseigne, c'est vrai. Mais ce que je ne vous encourage pas à faire, parce que je ne le vois pas chez Paul, il y a Jésus puis il y a Paul. Fait que Paul, il y a quelque chose où sa propre vie à lui est constamment offerte. Avec ses forces puis avec ses faiblesses, tu les vois aussi. Fait que il y a un maître, mais en même temps, on est des disciples qui cheminons ensemble. Puis je dois faire ça parce que je veux incarner de la transparence. Fait que ce que je pourrais vivre dans d'autres contextes, c'est que c'est moi qui initie. Puis parce que c'est moi qui initie, vous allez vous ouvrir. Puis des fois, je vais prendre des moments de ma vie où j'ai été un bel exemple, puis je vais vous l'illustrer, puis je vais vous le donner. Puis là, c'est très top-down. Je suis un maître, puis je suis en train de vous enseigner. Le problème avec ça, c'est que ceux qui vont être formés dans ce contexte-là, quand ils vont quitter, c'est ça qu'ils vont aller reproduire. C'est difficile d'encourager la transparence lorsque toi-même, tu n'as pas cette humilité-là d'être transparent, de l'exprimer, de le manifester. Fait que si je prends le premier contexte où j'ai vécu vraiment du coaching, c'était Richard Roule qui me coachait. C'était le pasteur de l'Église, ça faisait un an et demi que j'étais chrétien à peu près. C'était le pasteur de l'Église, fait que si vous me demandez c'était qui le maître, c'était pas dur à définir. Hein? Mais en même temps, dans les premiers mois, Richard était en train de me partager des choses qu'il vivait qui étaient difficiles avec ses filles à la maison. Puis il me demandait de prier pour ça. Puis il me partageait donc des choses qui étaient dures. Fait que c'était pas en même temps un maître comme nous on le conçoit dans une classe à l'école. Où tu as un prof, puis Puis ça fait partie de son image de montrer que lui est rendu. Il a atteint quelque chose, tu sais. C'est pas bon, ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Je donne ma vie en exemple. Je veux que ma vie soit un modèle, mais je veux jamais projeter l'image que moi je suis rendu. Puis c'est ça qu'on essaie de casser un peu. Mais vous allez voir un peu plus dans le fonctionnement au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vais aller à la page 4. En passant, il y avait des copies à l'arrière, là, puis vous êtes censé recevoir ça par courriel. Si vous ne le recevez pas par courriel, envoyez un petit courriel à mpellerin@eglise-espoir. Manon va vous ajouter une liste d'envoi ou quelque chose comme ça. Tableau de synthèse de l'approche de Jésus. Je trouve que ça devient un petit peu plus concret lorsqu'on parle d'engagement. Je vais le survoler assez rapidement parce que c'est quand même simple. Vous avez le rôle de Jésus, le rôle des disciples, la disposition de cœur des disciples, et puis les questions clés, dans le fond, qui sont censées être en train de répondre. Alors, on va parler d'un prédisciple, d'accord? Le prédisciple est invité. Son rôle, c'est de chercher. Sa disposition, c'est qu'il désire voir qui est Jésus. Il veut en savoir plus sur Jésus. Et les questions, donc, c'est est-ce que Jésus est le sauveur? Fait qu'on le voit chez les disciples, on voit ce cheminement-là, on le voit dans la foule. Assez rapidement, on voit ceux qui décident que non, Jésus, c'est pas le sauveur. Ils deviennent des ennemis même de Jésus. D'accord? Stade 1, être un exemple vivant. Alors, Jésus est un exemple par sa vie. Leur rôle à eux, c'est d'observer et d'imiter. La disposition de cœur, c'est d'être prêt à observer Jésus et comprendre la nature de sa mission. La question qui est dans leur esprit, c'est qui est Jésus exactement? Quel est son ministère? Quelle est sa mission? Stade 2, si on peut dire. L'enseignant qui provoque. Alors, le rôle des disciples, c'est étudier et questionner. Parce que là, ils sont challengés. Puis, ils vont être appelés à s'identifier à Jésus. Alors, on le voit là avec les disciples, à un moment donné, ils sont appelés eux-mêmes à prendre position. Puis, Jésus va leur dire, si vous ne prenez pas position, vous ne méritez pas d'être mes disciples. Vous ne pourrez pas être mes disciples. D'accord? Quel est le coût pour suivre Jésus? Dans les faits, là, on s'engage dans une triade ou dans un quad à peu près avec quelqu'un qui est au stade 2. D'accord? Avant ça, c'est pas évident. C'est pas évident de dire « je suis en train de faire de la formation de disciple ». Tu es peut-être plus en train de répondre à des questions que faire de la formation de disciple. La personne n'a peut-être même pas décidé encore vraiment qu'elle est un disciple de Christ. D'accord? Puis c'est pas linéaire, c'est pas parfaitement linéaire parce que je suis en interaction avec un être humain qui vit des choses différentes. Fait que je peux jaser avec Josiane, puis là je dis ok, c'est clair, elle marche avec Jésus. Mais là, il arrive une épreuve dans sa vie, puis par sa réaction, je dis wow, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'elle-même s'est trompée, puis peut-être dans le fond qu'elle l'est pas, parce que les questions puis les réactions qui viennent, c'est carrément comme si elle avait jamais connu le Seigneur, on dirait, tu sais. Fait que c'est pas parfaitement linéaire, ça. Mais il faut que moi, je sois attentif à ça. Je peux pas faire de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau un bon chrétien. Je peux pas, à force de conseils, aider quelqu'un à chasser tous les péchés de sa vie si la personne n'a pas vécu la nouvelle naissance. Je peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas fait le choix dans son cœur de renoncer à tout pour suivre Christ. On pourra pas produire la sainteté. Autrement, ça va être de la religiosité, d'accord? Ça marchera pas. Mais c'est pas juste ça, c'est que ça devient super contrariant. Parce que tu dis, coudonc, la personne, elle s'est-tu engagée? Mais la réponse, c'est non. Puis toi, par amour, t'as dit, non, mais tu vas voir, tu vas t'engager. J'ai aucune idée si la personne va s'engager. Faut qu'elle décide de s'engager. Fait que c'est pour ça que je vois dans le ministère de Jésus, il s'adresse à la foule, il annonce, il présente qui il est. Il y a des gens qui commencent, ça devient, c'est le fan club, ils sont là, sont autour, posent des questions. Et à un certain moment donné, il va les challenger. Il va leur dire, OK, est-ce que vous êtes prêts à devenir mes disciples maintenant? Fait que les tests qu'il va faire, ça va toujours être quelque chose qui va faire que 90% du monde vont se sauver en courant. Puis là, après, il demande aux 10 qui restent, puis vous autres, vous ne partez pas? Non, nous autres, on va mourir pour toi. Non, on verra. Mais OK, on a un point de départ. Vous êtes prêts à mourir pour moi aujourd'hui. Ça va? Donc, stade 2, stade 3, le coach qui supporte commence à donner des mandats, commence à donner des responsabilités, puis il dit « vas-y, fais-le ». Fait que c'est pour ça que, admettons, juste voir la formation de disciple comme un cours formel où on s'assoit un à un, puis je te donne un cours, il va falloir que tu lui donnes des devoirs aussi, là. Il faut qu'il y ait des devoirs, il faut qu'ils reviennent avec ça. Déjà, si on est à 3-4, une partie de la mise en pratique se fait dans nos conversations ensemble. Parce qu'il y en a un qui commence à coacher l'autre, puis oups, on est entre nous. Puis si en plus de ça, on est dans un contexte où on sert ensemble, bien là, on est en train de le faire, d'accord? Mais donc, dans ma vision de la formation de disciples, je veux donner des mandats aux gens en qui je m'investis. C'est tellement proche de l'éducation des enfants. C'est tellement, tellement près de l'éducation des enfants. Vous avez des enfants, vous faites tout à la maison pour eux. Vous êtes en train de les scraper complètement. D'accord? Il ne faut pas que vous fassiez tout pour eux. Il faut que vous les laissiez se ramasser. Il faut qu'il y ait des responsabilités. Il faut que vous les suiviez. Puis plus ils vieillissent, plus ils en ont. Puis là, ils arrivent à l'adolescence. Chaque fois que tu demandes de quoi, c'est comme une grosse baboune. Puis c'est lourd. Fait que la tentation, c'est de faire quoi? Alors, je vais le faire moi-même, c'est bien moins de troubles. Mais oui, tu es en train de le scraper. Tu n'es pas en train de faire de la formation de disciple. Donc, avec le coaching, la formation de disciple, il faut que je puisse faire ça. D'accord? Quand je le fais, admettons, avec les gars qui sont en formation ici pour le ministère, ils ont des responsabilités, ils doivent prendre des responsabilités. Je veux voir. Des fois je crée des situations, je les regarde aller, puis je dis, ah, il n'a pas catché encore. Quand on va se rasseoir, je vais poser des questions. Normalement, il aurait dû lui-même penser à faire ça. Il n'a pas pensé à le faire. OK, passer à allumer là-dessus. Donc, donne des responsabilités, puis le stade 4, c'est, hey, si tu as des questions, tu m'appelles. Ça ressemble à ça un petit peu, d'accord? Je suis là pour te supporter, pour t'aider quand ça devient difficile. Paul. Ouais. C'est une question? Je vais essayer de répondre à ta question. Tu me diras si je réponds à ta question, OK, Paul? Dans le fond, tu dis le cours, la foi chrétienne expliquée, des choses comme ça, c'est peut-être l'endroit où on va prendre quelqu'un qui n'a pas tout à fait pris une décision, mais qui est en recherche puis qui est en cheminement. Mais oui et non. Ça, c'est celui qui est le plus visible, qui est le plus évident. En réalité, par la grâce de Dieu, toute l'Église est en train de faire ça. Vous avez des gens autour de vous à qui vous jasez, qui posent des questions, qui sont intéressés. Donc, ça devrait être le plus organique possible, a priori. Plus l'Église grandit, plus il faut donner des canaux où on peut le faire de manière moins organique puis plus formelle aussi. Ça aide tout le monde à comprendre où est-ce qu'on s'en va, comment on le fait, tout ça. Fait que, il y a de manière organique à travers toutes vos relations, il y a des gens qui cherchent puis vous êtes appelés à leur donner des réponses. Ça, c'est une chose. Vous pouvez prendre le matériel, on le dit souvent au début, on le dit moins souvent, vous pouvez aller faire le cours avec Herman puis partir avec ça puis aller le faire avec du monde. D'accord? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dimanche matin. Moi, je vous dirais que le dimanche matin, dans mon esprit à moi, je devrais avoir 15 à 20 de l'Église qui n'est peut-être pas clairement chrétienne. Actuellement, là, la manière que je connais l'Assemblée, il y a au moins 10 %. Je ne suis vraiment pas certain qu'ils s'en vont au ciel. Vraiment pas certain. Fait que dans mon esprit à moi, je suis en train de travailler aussi avec des prédisciples et avec des disciples. D'accord? Ensuite de ça, ça se vit aussi à travers les petits groupes en mission. Là, dans le contexte des petits groupes en mission, par exemple, notre petit groupe à nous, on se réunit deux fois par mois. Là, on vient de faire un autre petit changement. Les deux fois par mois, on mange ensemble. Fait que ça va être une rencontre de chrétiens et de tous nos amis non-chrétiens qui veulent venir manger avec nous puis prendre un temps dans un contexte spirituel. Fait que là, je vais avoir encore les deux niveaux qui vont être présents à cet endroit-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est à travers les discussions. Je vais être sensible qui est là dans mon groupe puis je vais être en contact là. Après ça, on a nos événements plus formels comme Vendredi Saint. T'sais. Guillaume Bignon va venir donner son témoignage de conversion d'athée à chrétien. Ça va être un contexte pour ça. Fait que c'est ça, je te dirais, il y a les voies formelles, il y a l'organique, puis il y a ce qui est un petit peu entre les deux à travers la vie normale, mais de l'Église, pas la vie normale juste d'un chrétien. Toi, au travail, tu as des prédisciples ou des gens qui cherchent, peut-être qui te posent des questions. Si tu peux vivre ça dans un contexte de mission comme dans un petit groupe, il y a quelque chose qui devient différent là parce qu'ils vont voir votre vie de communauté aussi. Fait que c'est pas juste un message puis des questions sur un moment difficile dans leur vie. C'est votre vie de communauté qui fait cette chose-là. Fait que dans le contexte d'un petit groupe en mission, ce qui va arriver, c'est que Suzy est avec nous dans le groupe. Je vais dire, Suzy, il y a telle dame, ça fait deux fois qu'elle vient. Tu penses-tu aller prendre un café avec elle, deux, trois cafés, voir où est-ce qu'elle est, tu sais? Fait que là, ça va se faire comme ça à ce moment-là. Mais si Suzy me revient, elle dit oui, puis je veux m'engager pour 2 ans avec elle, on va commencer. Wow, elle est rendue où? Avant que tu prennes cet engagement-là. Parce que là, si tu lui dis qu'elle est chrétienne en faisant ça, puis qu'elle ne l'est pas, tu vas avoir des problèmes tantôt. Parce que tantôt, tu vas dire qu'elle ne l'est pas, puis elle va te dire qu'elle l'est. Tu sais. Ça répond-tu un peu? Ouais. Si vous allez à la prochaine page, la page 5, prédisciples. Alors, je reviens vraiment sur l'idée, il n'y a pas de formation de disciples sans soumission. Il faut passer de « viens et vois » à « suis-moi ». Si vous engagez avec des gens à faire de la formation de disciples avec eux, puis qu'ils sont juste à « viens et vois », vous n'êtes pas rendu, vous n'êtes pas en train de faire des disciples encore. Vous comprenez? C'est la foule. Il faut que tu puisses y demander « et toi, qui dis-tu que Jésus est? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie? Suis-moi. » D'accord? Ça, c'est super important. Stade 1, regarde et apprends. Par exemple, Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça, c'est regarde. Fait que je veux le faire à travers ma vie à moi. C'est pour ça, par exemple, que je vais dire, qu'est-ce qu'un chrétien fait? Il confesse ses péchés à des frères. Je vais le faire moi-même. Moi, pour moi, quand je fais de la formation de disciple, je suis le premier à confesser. Pourquoi je veux le faire? Parce que c'est « suis-moi, puis imite-moi ». Il faut que je le fasse. Fait que si je ne suis pas capable de le faire, fait que quand je parle des fois avec certains pasteurs qui n'ont pas appris à faire de la formation de disciples, j'ose avec, puis je me dis, comment il peut faire des disciples dans l'Église si lui n'est pas capable d'être transparent sur ses propres luttes? Dans le fond, le modèle qu'il va donner, ça va être le modèle que je disais tantôt, qui est très top-down. D'accord? Moi, je suis rendu... Je t'explique pas trop comment j'y suis arrivé parce que tu vois jamais le mécanisme de mon cœur, mais je vais te donner la théorie. Puis trouve ça dans le lieu secret là, avec Dieu. Comprends comment tu passes de la théorie à la pratique. Puis quand tu regardes le faire, toi aussi, tu vas être un maître. Tu vas faire comme moi. Tu vas donner le cours. D'accord? C'est pas vraiment ça. Il faut qu'il puisse m'imiter, donc il faut qu'il puisse avoir accès à mes moments forts puis à mes moments plus difficiles. Puis même si Paul n'est pas là constamment en train de confesser des péchés, je veux dire, quand on lit ses lettres, on a tellement accès à son cœur, ce gars-là. Des fois, tu lis, là, je parlais de ça avec quelqu'un deux semaines, je disais, des fois, tu lis Paul, tu te dis, il a tellement de l'air orgueilleux, tu sais. Mais il est dans ses luttes, il est dans ses combats de se donner pour une église, puis il est en train de livrer ça. Fait qu'il peut pas juste dire, vous êtes correct de me renier. Non, il va leur dire, vous comprenez pas tout ce que j'ai donné pour vous. Fait que là, j'ai accès à son cœur, à ses luttes, à ses combats, à ses passions, à lui. Jésus le faisait. C'est encore plus frappant quand c'est Jésus qui rouvre son cœur dans des moments de fragilité, là. D'accord? Fais l'œuvre, regarde, lorsque j'arrive au stade 4. Je veux terminer avec la page 6. Vous pourrez lire les définitions, ça ne sera pas très long d'y revenir, mais on va les développer un petit peu plus la semaine prochaine. Je veux terminer avec la page 6, d'accord? Chez Paul, on trouve plusieurs éléments qui sont très, très, très similaires. Je m'excuse. 2 Timothée 2, 1 et 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le pas à n'importe qui. Confie-le à des hommes qui ont démontré qu'ils sont fidèles. C'est des gens qui sont passés de « viens et regarde » à « suis-moi ». D'accord? Donc, je les ai prouvés, ils sont fidèles, je leur transmets à eux ça. Mais je leur transmets quelque chose que j'ai reçu moi-même. Je l'ai reçu de quelqu'un qui s'est investi, qui m'a enseigné. D'accord? Je peux prendre tout ça puis le placer juste dans le contexte formel de « moi, je suis le pasteur, moi, j'enseigne sur l'estrade, je vous transmets toutes ces informations-là, c'est à vous de les transférer à quelqu'un d'autre. » D'accord? L'affaire qu'il y a, c'est que Paul est en train d'écrire à quelqu'un qui a vécu avec lui. Paul est en train d'écrire à Timothée. C'est pas vrai que la relation entre Paul et Timothée, c'était une relation de stage à auditoire. C'est une relation d'amis, c'est une relation de combattants. Timothée a vu les larmes de Paul, il a vu la souffrance de Paul, il a vu l'amertume d'un pasteur qui se donne puis qui est rejeté, puis il a vu Paul être rejeté par des foules qui reniaient Christ, d'accord, ou qui ne voulaient pas croire en lui. On arrive dans 1 Corinthiens 11, 1 et 2, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il y a une génération qui a toute la misère du monde avec cette phrase-là. D'accord? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il y a des gens qui lisent ça, puis eux se disent, je n'aurai jamais le droit de dire ça parce que ce serait de l'orgueil. C'est vrai que ça peut être de l'orgueil. D'accord? Mais si tu n'arrives pas là, comment tu vas faire des disciples? Fait qu'il faut que j'arrive à l'endroit où je peux dire, imitez-moi. Personnellement, comment est-ce que je me protège, puis j'enlève un petit peu de pression sur mes épaules? Je leur dis, mais commencez par imiter mes confessions. OK? Ça va? Ça va jusque-là? Je vais chercher à être excellent dans mon humilité. Je vais vous dire toutes mes stupidités. On va commencer là. D'accord? Ça, je suis à l'aise avec ça. J'ai pas l'impression d'être trop orgueilleux. Mais vous remarquerez que c'est ceux qui sont à l'Église depuis plusieurs années, là, dans tout mon style de leadership, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que je vois chez Paul. Tu sais. Je me dis, c'est en étant transparent, en montrant mes faiblesses, en disant que j'ai pas toutes les réponses. On a une réunion de membres qui s'en vient le 21 février. Là. Vous le savez pas parce que c'est pas écrit à l'ordre du jour. Je vais demander pardon à l'Assemblée. Fait que vous voulez être là à la réunion. Je vais demander pardon aux membres, d'accord? Mais vraiment, là, parce que j'ai péché. Là, okay? Puis j'ai péché publiquement. Fait que je vais demander pardon publiquement à la réunion de membres. Bon, mais c'est correct. À ce moment-là, je suis capable de dire « Soyez mes imitateurs. » D'accord? Mais il y a vraiment une génération qui... Elle voit ça, puis elle se dit « Non, 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 j'ai pas le droit de dire ça. » Puis là, le piège énorme avec ça, c'est que ça va les amener à dire « Bon, OK, peut-être que Paul, tu sais, c'est un apôtre. Tu sais. Fait que peut-être que les pasteurs peuvent faire ça. » Faites attention, on s'en retourne sur le clergé catholique, là. D'accord? C'est le curé, c'est juste lui... Puis comme, dans le fond, vous croyez que c'est pas bien de penser ça, en même temps que vous vous dites peut-être que le pasteur, oui, vous allez quand même le checker parce que personne ne devrait faire ça. Fait que dans le fond, c'est un orgueilleux, tu sais, puis il cache ses péchés. Soyez biblique. Soyez humble et biblique. Acceptez que votre vie doit être un exemple, doit être examinée. Dans ses bons, dans ses mauvais côtés. D'accord? Si vous le faites pas avec vos enfants, je suis désolé, ça marchera pas. Fait que si vous ne le faites pas au niveau de la formation de disciples, ça ne fonctionnera pas. Donc, je termine avec ça, les éléments observés chez Paul, l'importance d'être un modèle. Ceux que je forme sont appelés à m'imiter en ce que je ressemble à Jésus. Le coach trouve la force non en lui-même, mais dans la grâce qui est en Jésus-Christ. L'importance de choisir les personnes en qui se reproduire, c'est ceux qui ont été fidèles. Puis la fidélité aux enseignements reçus plutôt qu'une recherche constante d'innovation. Fait que chez Paul, c'est une des choses qui ressort. Moi, je suis là pour transmettre le dépôt qui a été transmis à travers l'histoire. Ça va se traduire dans une expression différente. Ce matin, je n'ai pas de veston-cravate, d'accord? Donc, ça va avoir des petites nuances, il va y avoir des petites choses. Mais au niveau du contenu, je ne suis pas là pour réinventer le christianisme. On n'a pas à faire ça, ni son contenu, d'accord? C'est bon? On va s'arrêter ici avec un mot de prière. Père éternel, merci pour chacune des personnes qui sont ici ce matin. Merci, Seigneur, pour ceux qui nous ont précédés, qui se sont investis dans nos vies, en nous enseignant la vérité par ta parole et en l'incarnant dans un style de vie, Seigneur, où on voyait leur faiblesse et leur sainteté. On te demande, Père, de nous bénir ensemble ce matin, de nous faire grandir alors que toute l'Assemblée va se réunir dans cette salle et qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur, qu'on va se pencher pour écouter ta parole, Seigneur. Fais-nous grandir, donne-nous la foi, le courage de s'investir pour faire des disciples, Seigneur, pour obéir à ton appel. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen.